what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac,
girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mama. Promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac,
girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby, here I am.
Artiste s'étant hautement illustré hier à la soirée des Grammys, c'était Bruno Mars avec la pièce « That's what I like ».
Ah oui, on peut dire que c'était le roi de la soirée des Grammys. Les chanteuses lèvent le ton, alors je vais vous lire l'article de Cédric Bélanger, mais je peux vous dire que cette chanson « That's what I like » est la chanson de l'année aux Grammys. L'album de l'année, c'est « 24K Magique » de Bruno Mars, en anglais « 24K ». Magic, l'enregistrement de l'année et ainsi de suite. Donc, les chanteuses lèvent le ton, le mouvement Time's Up et la politique ont marqué le gala des Grammy Awards. Keisha qui fond en larmes, Janelle Monáe qui réclame l'égalité pour les femmes dans l'industrie et Camila Cabello qui se porte à la défense des immigrants. Les chanteuses ont profité de la vitrine des Grammy pour se faire entendre sur les sujets de l'heure. Trois semaines après les coups d'éclat des Golden Globes, il aurait été étonnant que la vague Time's Up et Me Too n'atteigne pas la plus importante remise de prix dans le monde de la musique qui avait lieu à New York hier soir. D'abord évoquée par le port discret d'une rose blanche par plusieurs célébrités sur le tapis rouge, la solidarité a gagné la scène quand de nombreux artistes, dont Lady Gaga, Sam Smith et Pink, ont livré leurs numéros musicaux tout de blanc vêtus. Ça n'arrive pas seulement à Hollywood et Washington, ça se passe aussi dans notre industrie, et a ensuite martelé Janelle Monáe avant de céder le micro à Keisha. Entourée de plusieurs stars, aussi en blanc, la chanteuse qui a accusé son ex-producteur d'abus sexuels a offert la performance la plus émouvante de la soirée quand elle a chanté « Praying ». Chavirée, elle a dû être consolée par ses partenaires après la note finale. Sans surprise, le président Donald Trump a été pris à partie. La jeune sensation Camila Cabello a plaidé la cause des Dreamers, puis Hillary Clinton a fait une apparition surprise dans un segment où l'animateur James Corden demandait à des vedettes de lire en spoken word des extraits du controversé livre « Fire and Fury ». Du côté des prix, on semblait se diriger vers un couronnement sans équivoque de Kendrick Lamar après que le nouveau roi du hip-hop eut remporté les 4 prix dédiés à la musique rap et le vidéoclip de l'année sous le nez de son concurrent Jay-Z, qui a mordu totalement la poussière malgré ses 8 nominations. « Jay-Z for President » lui a lancé Lamar avec un sourire en coin, comme pour se faire pardonner de ne lui avoir rien laissé. Mais le rappeur de Compton, qui a offert un numéro d'ouverture époustouflant et fortement politisé, a été devancé au fil d'arrivée par Bruno Mars. Le prince du R&B et du soul est reparti avec 6 statuettes, dont les convoitées Grammy attribuées à l'album et la chanson de l'année. Les artistes canadiens se sont aussi fait remarquer, à commencer par la rafraîchissante Alicia Cara, sacrée meilleure nouvelle artiste, devançant au fil la favorite SZA. C'était la première fois qu'un artiste du Canada remportait ce Grammy. Cara a profité de sa tribune pour plaider en faveur des vrais artistes qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur parce que la musique est traitée comme un concours de popularité. Lors du gala hors d'onde, The Weeknd a mis la main sur le prix du meilleur album de musique urbaine contemporaine, puis on a appris plus d'un an après sa mort que Leonard Cohen était un chanteur rock. C'est en tout cas ce qu'il faut déduire de sa victoire contre les Foo Fighters et Chris Cornell dans la catégorie meilleure performance rock pour sa chanson « You Want It Darker ». Et je vais vous lire la critique d'une pièce de théâtre qui est à l'affiche de l'usine C jusqu'au 10 février dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltez, mise en scène de Brigitte Henquez. C'est une critique signée Mario Cloutier, intitulée « On meurt tous d'amour ». Un grand texte de bons acteurs, une mise en scène physique malgré une certaine froideur, dans la solitude des champs de coton laisse prévoir toutes les qualités d'un grand rendez-vous théâtral. On meurt tous d'amour ou du manque d'amour, ce qui revient au même. C'est dans ce gouffre intersidéral que se situe dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltez. C'est dans ce crépuscule, cet entre-deux qu'il tente d'habiter, qu'il veut expliquer que son texte opère magnifiquement. Considérations philosophiques et éclats poétiques servent à animer une rencontre, ou plutôt une quasi-rencontre. Deux hommes dans une ruelle le soir. Ils se heurtent et s'aiment presque, se cherchent et tentent de s'ignorer à la fois. Un vendeur, un acheteur peut-être, il n'y a pas de réponse claire chez Coltez, et pourtant on saisit tout. Dans la solitude des champs de coton peut représenter n'importe quelle relation entre deux êtres, séduction, répulsion, solitude à combler, intégrité à protéger, curiosité et dédain, à la fois attirance et méfiance spirituelle, physique, totale. Pour rendre l'étrangeté de cette amitié amour impossible, les spectateurs marchent dans le gravier pour accéder à la salle, dureté d'un caillou mouvant. Tout est instable, une ambiance sonore mystérieuse agit comme prélude au duel qui suivra. Entre les chocs initials et finales des deux chiens qui se jaugent, se reniflent, grondent, puis en viennent presque à la sensualité, une scène longiligne. Dans cette arène peu commune, le spectateur doit souvent étirer le cou pour mieux entendre. L'inconfort des personnages nous est transmis du même coup. Ceux-ci exécutent une partition physique précise, une gestuelle métaphorique empêchant tout naturalisme encombrant de se glisser dans cette matière dense. L'excellent Hugues Frenette, le vendeur, assure une assise solide aux échanges ambigus entre les deux hommes. Sébastien Ricard, l'acheteur, slalom entre fulgurance captivante et monologue plus plat. Un débit parfois trop rapide est en cause ici. Ainsi, la mise en scène de Brigitte Henkens creuse le texte jusqu'au fond. Son scalpel un peu froid nous donne néanmoins accès à une pensée unique au théâtre, nous fait réfléchir à la fin du monde, nous place devant la fin de l'amour, tout en maintenant que cela reste possible, souhaitable. Alors, c'est une bonne partie de la critique de cette pièce à l'affiche, qui s'intitule « Dans la solitude des champs de coton » que j'ai eu la chance de voir. Et c'est vraiment une pièce aussi exigeante qu'hypnotisante. On meurt tous d'amour, c'est la chronique critique de Mario Cloutier. Chanson « Un abri contre le vent », c'est ce que propose la presse qui parle du nouveau disque de David Portelance. Sur son deuxième disque, David Portelance assume complètement son affection pour le bluegrass, le blues et le country du sud des États-Unis. Dans « Un abri contre le vent », celui qui a écrit la chanson « Au commencement du monde » pour Fred Pellerin, en 2009, parle de cœurs brisés et de grands espaces, de petits gestes du quotidien et de routes à suivre. Le tout dans un enrobage roots constitué d'harmonica, de banjo et d'orgue Hammond B3, allant de la valse country au chœur gospel. Parmi les belles surprises, Irène, adaptation d'une pièce de Lead Belly, et surtout Café Noir inspiré par le Negro Prison Song, Prison, merci Jean-Sébastien, Negro Prison Song, No Sugar in My Coffee. Mais aux côtés de chansons très réussies et épurées comme « J'avais pas son cœur » et la pièce-titre, on retrouve des éléments beaucoup plus faibles, « Méchant pétard », sans commentaire, entre parenthèses, et « Toi et moi », ode à l'amitié beaucoup trop longue et lancinante pour être touchante. L'ensemble, s'il est authentique, respectueux, trop, entre parenthèses, du genre est réalisé avec soin, entre autres par David Portelance et Louis-Jean Cormier, manque peut-être un peu de relief, mais pas d'âme. James Franco dans une mauvaise passe. James Franco est le dernier acteur en date à se voir mis sur la touche par Hollywood après les accusations d'agression sexuelle et de mauvais comportement portés à son encontre. Certains proches de l'acteur ont confié à Entertainment Tonight qu'il le vit assez mal. Il avait espéré qu'en gardant le silence, ça s'éteindrait tout seul. Mais même si ses amis de l'industrie le soutiennent, les choses sont entrées dans une spirale infernale. Il est vraiment dans une mauvaise passe en ce moment, a confié une source à la publication.
C'est samedi passé que je me suis marié. Irène a voulu que j'aménage avec elle. Aujourd'hui je suis parti, on s'est un peu fâché, m'en va faire un tour à l'hôtel. Irène ferme les yeux, Irène ferme les yeux, ferme les yeux, Irène ferme les yeux, c'est là que c'est le mieux pour nous deux. Des fois je trouve ma place dans le cœur battant des villes. Des fois je prends mon trou dans le doux fin fond du bois. Souvent j'ai dans le tour de pas rester tranquille, puis de mettre les pieds dans les plats. Irène ferme les yeux, Irène ferme les yeux, ferme les yeux. C'est là que c'est le mieux pour nous deux. Faudrait que je lâche de me battre, que je lâche de jouer aux cartes, l'âge de rentrer sous aux dernières heures de la nuit. Faudrait-je tienne maison, écouter le bois qui craque, puis regarder brûler l'incendie. Qu'elle t'était rendue, elle m'a répondu jamais assez loin de moi. Ça m'a mis en crise plus que je l'aurais voulu. J'suis pas mauvais gars tant que ça. J't'aimerais, Irène, j'te jure que c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il y ait plus une maudite goutte d'eau dans l'eau. Mais fais-moi pas le coup de partir au complet. J'en mourrai, j'y laisserai ma peau. Irène, ferme les yeux. Irène, ferme les yeux. Ferme les yeux, Irène, ferme les yeux. C'est là que c'est le mieux pour nous deux. C'est là que c'est le mieux pour nous deux.
Et un extrait de cet album de David Portelance, Un abri contre le vent, c'était la pièce Irène.
Histoire de famille pour amorcer ce segment libre, c'est dans le cahier ou la section pause de la presse, le livre de bord familial. Quels sont les rituels ou les traditions que vous perpétuez ou que vous avez mis en place dans votre famille? Cette semaine, nous parlons aux Martins qui mettent à jour un journal de bord familial lors des repas mensuels qu'ils organisent depuis plus de 26 ans. C'est une collaboration de Samuel Larochelle. 9 frères et sœurs âgés de 63 à 84 ans, ainsi que leurs conjoints et quelques cousines. Brunch mensuel. La tradition remonte à 1991, lorsque les enfants de la famille Martin se sont réunis dans un restaurant pour souligner la fête des mères. À la fin du repas, j'ai lancé « Savez-vous, nous devrions nous rencontrer ainsi chaque mois, le deuxième dimanche comme aujourd'hui », se remémore Suzanne Martin. Tout le monde était consentant. Vous savez, quand on est plus âgé, on se rencontre plus souvent au salon mortuaire qu'ailleurs. On voulait remédier à cela. Depuis, ils se réunissent tous les mois avec une joie sincère. À l'exception d'une qui travaille à temps partiel, on est tous à la retraite. C'est devenu normal de réserver du temps pour notre repas de famille. Jusqu'en 1998, ils se relayaient pour aller chercher leur mère qui vivait vers la fin de sa vie dans un centre pour aînés. Elle était très contente de voir sa gang réunie. Se tenir au courant et noter l'important. Les brunchs mensuels ont également permis aux Martins d'être à l'affût des dernières nouvelles. Avant, quand il se passait quelque chose dans la famille, on n'était pas au courant parce qu'on est très nombreux. Maintenant, on se raconte nos histoires au brunch. Ça nous rapproche. Dès la deuxième année, Suzanne a commencé à noter les présences dans un journal de bord que ses frères et sœurs doivent signer. Et quand il y a une grosse nouvelle comme un voyage ou une union, on l'inscrit dans le livre de bord. Un jour, notre mère qui s'était remariée était malheureuse dans son nouveau mariage et on a inscrit « Aujourd'hui, maman est redevenue célibataire ». Avec les années, Suzanne Martin et les siens ont rempli 3 livres entiers d'anecdotes et de souvenirs importants. Je les regarde de temps en temps. C'est intéressant de relire le chemin parcouru. Depuis 26 ans, le clan Martin s'est fréquemment réuni à Saint-Rémy, Candiac, La Prairie, Delsun et Sainte-Catherine. Sans oublier la réunion spéciale à Longueuil une fois par année. Durant l'été, on change nos habitudes en se réunissant avec nos motorisés un samedi soir au parc Marie-Victorin pour assister aux feux d'artifice. On couche là-bas et le lendemain, on déjeune ensemble sous les auvents de nos motorisés, avec les tables mises bout à bout. À l'occasion, ils se rassemblent également à Saint-Édouard dans un esprit charitable. Un de nos frères s'occupe du Club Lyon, et on participe environ 2 fois par année à des repas bénéfices pour des bonnes causes et pour l'encourager. Quand certaines personnes lui soulignent qu'elle est chanceuse d'être si proche de sa famille, Suzanne préfère nuancer. On fait notre chance. Il faut la provoquer. Pour moi, la famille, c'est très précieux. De l'espace pour désengorger les urgences. ExoSkin dit avoir trouvé une solution pour améliorer le système de santé du Québec. C'est un texte dans le Journal de Montréal signé Mathieu Charret. Avec des vêtements intelligents baptisés AstroSkin, elle va tester la santé des astronautes en direct dans la Station spatiale internationale SSI, avec pour but d'appliquer des solutions de télémédecine sur Terre. Il y a plein de problèmes de santé qui peuvent se produire pour les astronautes pendant leur voyage qui dure des mois, explique Pierre-Alexandre Fournier, président et cofondateur d'ExoSkin. Quand on ira sur Mars, par exemple, il va falloir que les équipes médicales soient autonomes pendant des années. Il n'y a pas d'hôpitaux proches. L'astronaute canadien David Saint-Jacques va donc porter l'AstroSkin pendant son prochain voyage dans la SSI prévu en novembre 2018. Une expérience qui va permettre deux choses. Suivre en direct son état de santé et mieux comprendre les effets du vieillissement du corps qui est accéléré dans l'espace. On est en train de décentraliser le système de santé, dit le président et cofondateur. C'est le scénario optimal de médecine à distance. Ce n'est pas juste un projet spatial, ça va nous permettre de comprendre comment passer moins de temps à l'hôpital ou dans les cliniques. Ça pourrait changer la manière dont la pratique médicale se déroule sur Terre. Fondé en 2006, ExoSkin vend déjà des milliers de vêtements intelligents du même nom pour des clients en sport de haut niveau ou pour des clients dans la défense. Avec l'AstroSkin, elle pousse la technologie encore plus loin. Muni de capteurs encore plus poussés, le vêtement de l'espace pourra mesurer l'ensemble des signes vitaux, comme le taux d'oxygène ou la pression sanguine en continu. L'AstroSkin ressemble à un T-shirt et un bandeau qui sont munis de capteurs qui vont relayer toutes les informations de santé de l'astronaute. Une boîte électronique sera aussi envoyée dans la SSI afin de relayer en direct les données sur Terre. SSI, c'est, je vous rappelle, Station spatiale internationale. Plusieurs composantes de l'AstroSkin proviennent de partout dans le monde, mais tout est assemblé au Québec. Toute la recherche et le développement sont faits ici aussi, dit Pierre-Alexandre Fournier. Nous utilisons plusieurs usines situées au Québec. Disons que quand la fusée va décoller avec David Saint-Jacques et l'AstroSkin à bord, ce sera une grande fête pour nous. La chronique de Denise Bombardier dans le Journal de Montréal, intitulée « Les carencés affectifs ». Avec les années qui passent, j'ai fini par croire qu'un des traits les plus profonds de la personnalité des Québécois est la peur sourde, inavouable, d'être rejeté, personnellement et collectivement. C'est ainsi que j'en suis arrivée à la conclusion que les Québécois sont des carences affectifs. La peur de ne pas être aimé explique aussi leur insécurité comme peuple. Leur tendance à l'autoflagellation qu'a nourri la morale catholique a rendu le peuple aisément culpabilisé. Lorsque surgissent des drames comme celui que l'on commémore aujourd'hui, les Québécois retrouvent les mots enfouis dans leur mémoire. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Le premier ministre Couillard avait, il y a un an, incarné en sa personne ce vieux réflexe. D'ailleurs, il continue de prétendre que les Québécois ont une tendance à l'intolérance qui s'inscrirait dans leur nature, leur histoire éteindrait leur nationalisme. Comme tous les carencés affectifs, les Québécois sont prêts au compromis, même en risquant d'y perdre des plumes. Ils se sentent rapidement illégitimes, voire illégaux dans leurs croyances et leurs aspirations. La rectitude politique est alors pour eux une porte de sortie. il s'accroche à des mots qui disent la chose et son contraire, comme le fédéralisme renouvelé, la souveraineté association, les accommodements raisonnables. À la question référendaire, oui ou non, ils auraient préféré voter « ou ». Et l'indépendance du Québec revendiquée par les fondateurs du RIN a été rebaptisée « souveraineté », mot moins clivant. D'ailleurs, les indépendantistes purs et durs n'avaient cure de ceux qui les rejetaient. Ils ne voulaient pas avant tout être aimés. Ils ne voulaient pas avant tout être aimés, mais respectés. À une exception près, Jacques Parizeau, les politiciens souverainistes ont dû plier l'échine. Même René Lévesque qui a perdu son pari du compromis, qui était la souveraineté association. Dans cette perspective, l'adhésion à l'indépendance a été la seule tentative moderne de décomplexer les Québécois et de les déculpabiliser. C'est pourquoi les échecs référendaires demeurent des blessures collectives jamais cicatrisées chez les générations qui ont partagé ce rêve. Il est impossible de comprendre l'insécurité québécoise face à des réclamations de nature religieuse et culturelle de la part de certains groupes de musulmans sans connaître les blessures indélébiles de l'éducation catholique du passé sur nombre de Québécois. Même les jeunes qui n'ont aucune culture religieuse ont hérité de la haine des curés qu'ils n'ont pas connus. Cette haine est d'abord une haine de soi, ces curés étant issus du peuple. Cette journée à la mémoire des victimes de la tuerie de Québec exige un climat empreint de réserve, de dignité et de tristesse contenue. Toute manifestation d'hostilité, tout commentaire enrobé d'enflure verbale, toute expression de ressentiment et toute généralisation insulterait les morts, les blessés, les familles en deuil et l'immense majorité des Québécois, qui à ce jour se sont comportés de façon exemplaire dans les circonstances. Les blâmes, les propos ambigus, les accusations déguisées en analyse sociale auraient des répercussions que personne ne devrait souhaiter pour l'avenir. Les Québécois de bonne volonté sont des gens que l'on peut blesser. Et tous les extrémistes sont des prédateurs de nos valeurs. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du lundi 29 janvier 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la régie, mise en onde, choix musical. Et je vous invite à rester des nôtres si vous nous écoutez en direct, parce que dans un petit moment, c'est l'émission Les Paractualités. À tout de suite!